France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le sport peut-il être imperméable au monde qui l'entoure ? Les Jeux Olympiques peuvent-ils rester hermétiques aux questions politiques ? Sans doute pas, comme le rappelait en 2008 le troisième volet de la série que Aurélie Luneau consacrait aux Jeux Olympiques, alors que se tenaient à Pékin, dans la très peu démocratique Chine populaire, les 29e Olympiades de l'ère moderne. Car si le CIO s'est toujours évertué à passer sous silence les questions qui fâchent, à détourner le regard des persécutions et des massacres en cours, tout en maniant aussi habilement que possible le jeu diplomatique qu'il tient entre ses mains, à savoir la désignation de la ville qui accueillera la course aux médailles, la politique n'a jamais attendu l'avis du CIO pour s'inviter aux Jeux. En évoquant les Jeux de Berlin de 1936, ceux de Mexico en 1968, avec l'éviction de Tommy Smith et John Carlos, survenant après le carnage de la place des Trois Cultures, les Jeux de Munich en 1972 et le massacre des athlètes israéliens par les Palestiniens de Septembre Noir, et en évoquant le boycott par les USA des Jeux de Moscou en 1980, ainsi que le boycott par l'URSS de ceux de Los Angeles en 1984, l'émission qui va suivre exposait l'impossible pari du CIO, entretenir coûte que coûte la fiction de l'idéal olympique en se lavant les mains de l'usage qui en est fait. On peut rappeler qu'en 1936, il ne se trouva qu'un seul député pour voter contre la participation de la France aux Jeux de Berlin. Il s'appelait Pierre Mendès France. Le cœur des Jeux, troisième des cinq parties, quand la flamme vacille, une émission diffusée le 10 août 2008 sur France Culture.
Les hommes ne sont pas des anges et je ne crois pas que l'humanité gagnerait à ce que la plupart d'entre eux le devinrent.
Pierre de Coubertin.
J'admettrais fort bien, pour ma part, de voir en pleine guerre les armées adverses interrompre un moment leur combat pour célébrer des jeux musculaires, loyaux et courtois.
Quel est l'événement exceptionnel,
Michel Jazy,
où l'on peut relater un désaccord politique avec des pays ? Ce sont les Jeux Olympiques. Regardez ce qui se passe à Pékin avec les problèmes du Tibet. Tout le monde s'en mêle, tous les pays du monde s'en mêlent.
Pour la première fois dans votre carrière et dans votre expérience des Jeux Olympiques, Laura Flessel, vous allez connaître des Jeux touchés par la politique. Est-ce que c'est une position facile ou plutôt délicate pour un sportif ?
Je vais vous dire que notre rôle n'est pas de faire de la politique. Notre rôle est de présenter en fait une nation par nos résultats sportifs. On a nos convictions, mais en l'occurrence, les Jeux Olympiques ont la charte d'être apolitiques. Donc on va laisser aux politiciens le soin de parler, je dirais, revendications. Et nous, laissons-nous nous entraîner sereinement, je dirais, tranquillement. La meilleure des réponses sera les victoires sur les tatamis, les pistes et les rings. Et puis on verra par la suite.
I declare open the games.
Le cœur des Jeux. Aurélie Luneau, Gilles Davidas.
La vasque s'allume, illumine.
Troisième volet. Quand la flamme vacille. Depuis l'époque où Pierre de Coubertin tentait de faire revivre les Jeux antiques, persuadé que le sport pouvait assurer à lui seul un rôle international de grande portée, la flamme olympique a connu quelques parcours agités et une diplomatie évidente s'est peu à peu installée au cœur du CIO. Avec sa seule politique de désignation des villes, le comité a souvent joué des ressorts et des fractures du monde en ébullition, convaincu d'en être toujours protégé. Et pourtant, l'histoire longue des Jeux montre combien la politique a régulièrement occupé l'enceinte olympique et poussé les opinions publiques à s'émouvoir des manquements aux droits de l'homme et aux principes fondamentaux de la démocratie.
faut bien considérer que dans la charte olympique, il n'est jamais question des droits de l'homme.
Patrick Lasse, historien.
Le CIO n'a pas voulu se lier à l'ONU. Il évoque simplement les principes éthiques universels, ce qui n'a aucune valeur du point de vue du droit international, ce qui ne le lie en rien. Or, aujourd'hui, le CIO se fait finalement l'avocat de la Chine. C'est assez extraordinaire de voir une institution qui bâillonne les athlètes qui voudraient exprimer leur désarroi politique, leur mécontentement vis-à-vis du régime chinois, de l'intervention de la Chine au Tibet, des millions de prisonniers politiques en Chine. C'est le CIO qui interdit de parole ces athlètes. En même temps, c'est beaucoup demandé aux athlètes. Tout le monde ne s'appelle pas John Carlos et n'est pas capable de lever le poing et de risquer 25 ans de sa carrière à Mexico en 68. David Douillet, lui, préfère pour un monde meilleur une formule qu'il retire de la charte olympique, mais encore une fois, qui ne signifie rien. Pour un monde meilleur, tous les régimes de la planète policier ont toujours promu un monde meilleur et espéré un monde meilleur. Là, c'est, je crois, se remettre dans une véritable impasse. Alors, si les athlètes ne sont pas capables de prendre position ou n'ont pas ce courage, et parce qu'ils remettent en cause toute une carrière, ils sont liés aujourd'hui, ils sont des athlètes professionnels. Hein. John Carlos, ce n'était pas le cas, c'était encore un étudiant, même s'il pense vivre ensuite de l'entraînement des sportifs de haut niveau aux États-Unis, il devra s'exiler, d'une certaine manière, en Angleterre. Pour les athlètes d'aujourd'hui, c'est vraiment mettre en péril des années d'efforts, on peut le comprendre. S'il y a un acteur qui doit intervenir dans ce champ-là, c'est bien le CIO lui-même. C'est lui qui attribue les jeux, c'est à lui d'assumer ses choix. Et on peut rêver d'un CIO qui soit capable de confier les jeux à des régimes policiers et dictatoriaux et qui prenne la parole dans l'arène olympique pour demander à ces pays organisateurs de respecter les droits universels.
L'argument du CIO est assez simple. Comment refuser à
Benoît Hemmermann, journaliste,
un tiers ou un quart de la population mondiale d'organiser les Jeux ? Si on les refuse à Pékin sous des prétextes qui sont recevables de la peine de mort y existe, les exécutions sommaires se multiplient, les arrestations, la non-démocratie, le manque de liberté de la presse, etc. Tous ces arguments sont recevables. Mais si on veut faire un petit peu un effort, s'ils étaient organisés aujourd'hui par les États-Unis cette année, nous avons tout de même un pays qui est en guerre, en Irak, vous avez le cas de Guantanamo, vous pouvez multiplier les cas pour tous les pays quasiment, à part la Norvège, l'Islande et j'en passe quelques-uns. Mais aucun pays actuellement n'est vierge de toute faute. J'ai participé aux Jeux de Moscou, on tombe à peu près sur la même configuration. Avant d'aller à Moscou, tout le monde freinait des cas de fer en disant c'était encore une dictature forte à l'époque à Moscou. Je crains que les Chinois soient un peu plus raides, un petit peu plus bornés, mais j'imagine mal 15 000 journalistes parqués au village olympique, ne pouvant pas bouger ou rencontrer des gens. Je crois qu'au contraire, il faut saisir cette chance pour dénoncer des choses.
Historiquement, Patrick Lasse, à quand remonte le premier cas de boycott dans l'histoire des Jeux ? Ou le premier cas d'intrusion de la politique ?
On pourrait considérer qu'à Athènes, en 1896, il y a un premier boycott, par exemple, des athlètes de l'Empire ottoman, hein, qui ne participent pas aux Jeux. Bon, il y a eu, en revanche, à contrario, hein, des athlètes qui ont concouru sous leur couleur à Stockholm 1912, alors que leur nation n'était pas constituée en État. Hein, c'est ce que Coubertin affirme en disant « la géographie sportive n'est pas la géographie des États hein, ». La Bohème, de l'Empire austro-hongrois, participe sous ses propres couleurs. La Finlande, de l'Empire russe, participe sous ses propres couleurs à Stockholm en 1912. C'est le reflet aussi d'un faible intérêt de ces États pour les compétitions olympiques.
Dans un an, les cloches de Pâques auront annoncé la prochaine entrée dans le stade de Berlin des athlètes venus de tous les coins du monde. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade.
Le Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler, inaugure les 11e Jeux Olympiques 1936 au stade olympique.
Et
Je déclare ouverts les Jeux olympiques de Berlin, les 11e Jeux olympiques des temps modernes.
La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on attribue les Jeux 7 ans avant que les Jeux aient lieu.
Benoît Himmermann.
Donc dans cet espace de 7 ans, il peut se passer tout de même beaucoup de choses. L'exemple le plus célèbre est évidemment l'exemple de 36, puisque quand on accorde les Jeux à Berlin, Hitler n'est pas encore au pouvoir, et quand les Jeux sont organisés, Hitler est au pouvoir. Il y a un contre-exemple, moins spectaculaire, je l'avoue, mais quand on attribue les Jeux à la Corée et à Séoul en 1988, la Corée est sous la coupe d'un dictateur Park, qui est très important, et le fait d'avoir attribué ces Jeux à la Corée fait que un processus démocratique va se mettre en branle. Les premières élections démocratiques vont avoir lieu juste avant les Jeux et la démocratie va perdurer après les Jeux. Donc, moins spectaculaire, mais comme quoi le contre-exemple existe aussi.
La paix par l'olympisme, chère au baron Coubertin, n'aura pas lieu à Berlin, où en 1936, le drapeau rouge à croix gammée flotte aux côtés du drapeau blanc aux anneaux entrelacés. 12 ans plus tard, à Londres, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Allemagne et le Japon qui sont absents des Jeux, ainsi que la Russie qui tarde à s'affilier au mouvement olympique. Mais en 1956, à Melbourne, l'URSS sera sur le devant de la scène pour le plus grand malheur des Jeux australiens. Un mois avant leur ouverture, les chars soviétiques ont envahi la Hongrie. Des événements politiques qui troublent les esprits et agitent les rencontres sportives, à l'image de la finale de waterpolo Hongrie-URSS qui voit les athlètes en venir aux mains. Melbourne, entachée par la politique, pour diverses raisons, va subir le boycott de certains pays comme l'Espagne, la Hollande ou encore la Suisse.
En même temps, il y a un boycott d'autres pays comme l'Irak, qui refusent de s'y rendre parce qu'il y a eu l'affaire du canal de Suez.
Patrick Lastre.
La France et l'Angleterre et Israël qui s'emparent militairement du canal de Suez aux dépens de l'Égypte, hein, de Nasser. Donc il y a eu effectivement un boycott à ce moment-là. Les Chinois aussi, hein, à ce moment-là, boycottent les Jeux de Melbourne parce qu'ils refusent de participer à ces Jeux alors que Taïwan aurait ses propres participants. Donc il y a, dès l'année 1956, un mouvement de boycott très important. On va le retrouver ensuite. Les Chinois vont finalement boycotter jusqu'aux années 1980.
Raymond Pointu, vous avez été longtemps journaliste à l'AFP. Vos premiers Jeux, c'était quand ?
C'était en 1968 à Mexico.
Jeux olympiques, le grand moment cette nuit fut la finale du 100 mètres. Revenons à 1h du matin au départ du 100 mètres.
À vos marques, allez le starter. Je mets mes jumelles maintenant. Ouais. Ils sont très bien partis, Gambic est très bien parti. Et après 25 mètres, il est en 5e ou 6e position. Et c'est elle, c'est lui. Premier, Gambic est 5e. Gambic est 5e. Premier Heinz et Gambic est 5e.
Premier Heinz, vous l'avez entendu, dans le temps de 9 secondes, 9 dixièmes, record du monde égalé. Deuxième, le Jamaïcain Miller, 10 secondes. Troisième, l'Américain Charlie Green, en 10 secondes. Cinquième, Roger Bambuck, en 10 secondes, 1 dixième.
Moi, je m'intéressais aux Jeux olympiques depuis tout petit, donc. Mais je dois dire que ma joie du départ a été un peu gâchée par le massacre qu'il y a eu sur la place des Trois Cultures, alors que je n'étais pas encore parti.
C'était quelques jours avant l'ouverture des Jeux ?
C'était quelques jours, oui, simplement. Ça a été un massacre épouvantable parce que, comme un peu partout dans le monde, il y avait une effervescence estudiantine, alors qu'il y avait une réunion très pacifique sur la place des Trois Cultures, l'armée a tiré dans le tas, quoi. Et donc, on a dit qu'officiellement, il y avait eu 26 morts. En fait, quand je suis arrivé à Mexico, j'ai acheté un journal, une revue hebdomadaire qui s'appelait Porqué, pourquoi. Et les journalistes avaient fait le tour des hôpitaux et donc ils avaient compté les cadavres et ils étaient arrivés à plus de 300. Quoi.
Et ces Jeux qui commencent donc par ce bain de sang et 300 étudiants qui sont tués, Raymond Pointu, ces Jeux ont été aussi fortement perturbés par des mouvements politiques.
Il faut dire que vraiment c'était une époque très agitée, hein, parce que c'est l'année 1968, c'est la mort de Martin Luther King. Il y a la guerre du Vietnam, la situation au Proche-Orient qui se tend de plus en plus. Et puis l'intervention de l'armée soviétique à Prague, ça fait beaucoup de choses quand même.
Aux États-Unis, les préoccupations de la campagne électorale passent au second plan. Il n'y a pas eu d'été chaud comme l'année dernière, mais les Noirs ont trouvé dans les Jeux Olympiques une nouvelle possibilité de s'exprimer. Et les Américains ont réagi. Tommy Smith et John Carlos, les vainqueurs du 200 mètres qui ont brandi leur point noir sur le podium, sont expulsés de la capitale olympique. Une telle décision, bien sûr, ne pouvait que provoquer des réactions. Je vous propose d'entendre tout de suite une interview de Monsieur de Mérode. Monsieur de Mérode, qui est l'un des membres du comité olympique, ce comité olympique qui a pris la décision d'expulser Smith et Carlos.
Vous comprendrez aisément que ce genre de manifestations qui sont caractéristiques, disons, de l'évolution politique intérieure d'un pays ne sont pas du tout compatibles avec l'idéal olympique. Ce sont des choses que nous ne pouvons absolument pas tolérer et si elles venaient à se généraliser, bien les Jeux olympiques devraient fermer leurs portes.
Oui, oui, j'étais là dans la tribune, j'ai assisté à cet événement. La manifestation sur le podium était quelque chose d'assez imprévu. Même si on savait la délégation américaine travaillait par des questions politiques, des droits de l'homme, etc., avec derrière eux un professeur d'université qui est un peu la tête pensante du mouvement qui s'appelait Harry Edwards. Quand il y a eu cette manifestation sur le podium, les Mexicains... ils étaient très enthousiastes parce qu'il y a toujours chez eux un côté rebelle. Et par contre, les Américains suffoquaient d'indignation. Quoi. Et à mes côtés, Jesse Owens pleurait parce qu'il savait qu'il allait arriver des choses pas très agréables à ses jeunes camarades.
Alors, quels sont les boycotts qui vous ont le plus marqué, vous, Raymond Pointu ?
Celui de 1972, évidemment.
Munich.
Munich, avec l'assassinat de 11 Israéliens. Et il y avait vraiment là une menace de boycott très importante. Quoi. Parce que une invitation avait été adressée à la Rhodésie. La Rhodésie était une ancienne colonie britannique qui avait proclamé son indépendance unilatéralement en 1965. Et qui menait une politique raciale. On avait adressé une invitation à la Rhodésie, et là, il y a eu une menace de boycott de la part des pays africains, évidemment, de la part des Noirs américains aussi, de quelques pays latino-américains, évidemment de tout le bloc de l'Est, ce qui faisait beaucoup. Donc, il y a eu une formidable pression, et finalement... L'invitation à la Rhodésie a été retirée.
C'est donc maintenant M. Avery Brundage qui doit être très ému aussi. Ce sont ses derniers moments. Le président du CIO, bien qu'il préside encore ces jeux, qui prend la parole et qui dit en substance, nos amis allemands ont fait de leur mieux pour donner à cette rencontre des jeunes du monde entier toute la dignité qui convient. Ils ont organisé les Jeux de manière grandiose et ont construit des installations extraordinaires. Puissent tous les athlètes réaliser dans un esprit olympique et en faisant preuve de fair play de nouvelles performances dont ils pourront être fiers. J'ai l'honneur d'inviter le président de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur Gustav Heinemann, a proclamé l'ouverture des Jeux de la 20e Olympiade de l'ère moderne, rénovée par le baron Pierre de Coubertin en 1896.
Bah, quand on est gamin, comme c'était mon cas quand je suis allé à Munich...
Benoît Emmermann.
En plus, Munich, c'était les anti-jeux de Berlin. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont organisé ces jeux pour que ça ne ressemble pas à Berlin. Vous aviez un toit transparent, arachnéen, comme ça, tout était lumineux, tout était ouvert, il n'y avait pas de barrière, etc. C'est d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de barrière qu'il y a eu l'attentat. Et moi-même, en tant que spectateur, j'ai subi, entre guillemets, cet attentat, puisque le matin où je voulais me présenter au stade, on m'a dit non, les jeux sont suspendus. La réaction d'un jeune comme moi, c'était la colère. Comment on supprime les jeux, on arrête les jeux ?
Jeux olympiques, avant même l'ouverture, la politique avait menacé d'empoisonner l'esprit sportif avec l'affaire rhodésienne. Mais pour la cérémonie, tous les observateurs s'étaient accordés
pour remarquer la bonne entente des délégations. Certains avaient même relevé le fait qu'aucun problème ne se posait avec la coexistence des pays arabes et d'Israël, et la comparaison avait été faite avec l'intransigeance de certains pays africains. Mais voilà qu'un télégramme de Tel Aviv, il y a un quart d'heure à peine, remet tout en question. L'équipe israélienne participant aux Jeux Olympiques aurait été attaquée cette nuit au village olympique par un commando de terroristes palestiniens. Un Israélien aurait été tué, un autre enlevé, et l'on ignore encore s'il y a eu des blessés. Ce sont là les seuls éléments que nous possédions sur cette information, mais déjà un autre télégramme de Munich, celui-là, nous signale que la police munichoise confirme l'attaque.
C'est vrai qu'avec le recul, on prend un peu de distance par rapport à tout ça. J'en ai pris d'autant plus que, bien des années plus tard, j'ai rencontré Tuvia Sokolovski, qui était l'un des deux survivants de l'attentat de Munich, et lui prêchait évidemment l'arrêt des Jeux. C'est normal, ses copains étaient morts la veille. Et moi-même, avec le recul, je me dis que ces Jeux auraient peut-être dû être suspendus, en tout cas plus longtemps que l'instant d'une messe donnée le lendemain matin.
Après Munich endeuillé par le décès de 11 athlètes israéliens, le CIO doit faire face à de nouvelles pressions diplomatiques à l'occasion des Jeux de Montréal. Dans un premier temps, le gouvernement canadien refuse l'entrée sur son territoire des athlètes de la Chine nationaliste non reconnus par le Canada. Dans la foulée, 16 pays africains réclament du comité olympique le retrait de la Nouvelle-Zélande. Le prétexte ? Son équipe de rugby est accusée d'avoir rencontré au cours de l'été l'équipe d'Afrique du Sud, pays exclu du mouvement olympique en raison de sa politique d'apartheid. Le CIO refuse le chantage, seuls le Sénégal et la Côte d'Ivoire restent à Montréal. Les Jeux continuent, mais 4 ans plus tard, l'arme du boycott va mettre plus lourdement en danger le monde olympique.
Moscou 80.
Le 24 décembre 1979, les troupes soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Aussitôt, des voix s'élèvent des États-Unis pour exiger le boycott des Jeux de Moscou qui doivent se dérouler du 19 juillet au 3 août 1980.
Ce qui est moins connu, c'est que les Américains avaient prévu ce boycott avant l'invasion des troupes soviétiques en Afghanistan. C'est le prétexte trop trouvé pour justifier le boycott des Américains. En fait, il était dans les cartons de Brzezinski depuis un an et demi.
Finalement, c'est une histoire de diplomatie, l'histoire du CIO, Monique Berliou.
Beaucoup plus que de sport, oui. Nous sommes allés voir d'abord Brejnev. Et ensuite, nous sommes allés voir Jimmy Carter avec le président de l'époque qui était Lord Killeany. Nous étions tous les deux. Jimmy Carter nous a reçus très gentiment dans le salon ovale. Tout le monde a papoté très gentiment et leur tournait. Et on parlait toujours pas des Jeux et du boycott. Et j'ai tiré Lord Killeany vers la veste. Je lui ai dit, mais il faut lui poser la question. Alors finalement, il a posé la question et il y avait Brzezinski qui était son âme à penser, qui était assis un peu plus loin dans la pièce. Et quand Lord Killeany a demandé « Voulez-vous renoncer au boycott ?», Brzezinski a dit « Pas question ». Alors Carter a dit « Pas question ». Donc on a boycotté. Voilà.
Là, il y avait une forte poussée d'un certain nombre d'athlètes dont d'ailleurs je partageais les positions.
Jean Pogzobut, ancien directeur technique national.
Pour rencontrer un des responsables politiques du RSS. Il y avait un certain nombre d'athlètes dans l'équipe de France d'athlétisme qui étaient concernés par ce projet et qui ont fini par pouvoir rencontrer M. Pavlov, qui devait être à l'époque le numéro 5 du gouvernement soviétique. On craignait quelque peu l'arrivée, d'ailleurs on l'a bien fait, puisque tout le monde au niveau de l'équipe de France est passé comme une lettre à la poste. Et Marajo, qui était un corps de 800 Quinslans, qui était dans les demandeurs d'audience auprès du gouvernement soviétique, a été fouillé de fond en comble. C'est valide, mais enfin disons ça, c'est pour la petite histoire.
Et ce genre de démarche, Jean Pouxebut, on pouvait les réaliser sans lien avec le CIO? Spontanément?
Oui, spontanément. Il n'y avait pas d'a priori ni d'interdiction de la part du CIO de manifester une certaine position. C'était d'ailleurs une bonne chose, parce que quand le CIO intervient dans ce genre de choses, en général, ça ne fait qu'aiguiser les mécontentements. Et voir les interventions.
Le journal de Luc Évrard. Bonjour Luc.
Le voyage de la dernière chance pour Juan Antonio Samaranch, le président du Comité international olympique, arrive aujourd'hui à Moscou pour tenter de faire revenir les autorités soviétiques sur leur décision de ne pas aller à Los Angeles. Monsieur Samaranch ne sait même pas s'il sera reçu par Constantin Tchernienko.
Concernant le boycott, 4 ans plus tard, à Los Angeles, donc, là, pareillement, on considère que les soviétiques ont fait mordre la poussière aux Américains, ont répliqué, se sont vengés du boycott, pas du tout. Les travaux de Jérôme Gigax, un de nos collègues suisses, ont montré, à partir des archives de la CIA, qu'en fait, là encore, les soviétiques souhaitaient participer à ces jeux parce qu'ils voulaient aller vaincre les Américains sur leur territoire, en Californie. Mais en face, il y a un certain nombre d'acteurs souterrains qui sont reliés à l'aile droite du parti républicain, ce parti conservateur qui soutient Ronald Reagan, et qui vont activer un certain nombre de ressorts de la propagande intérieure pour promettre à l'URSS de faire passer des athlètes soviétiques, des athlètes de l'Est à l'Ouest au moment des Jeux de Los Angeles, de promouvoir la dissidence soviétique, de gêner la libre circulation des athlètes soviétiques accusés de d'espionnage possible sur le territoire américain. Et toutes ces, disons, tout ce travail de sape et de propagande qui est réalisé par ces fondations obscures, eh bien, vont déterminer les soviétiques à finalement boycotter des jeux qu'ils ne souhaitaient pas boycotter au départ.
À croire que la loi antitrust instaurée en 1914 aux États-Unis pour lutter contre les monopoles ne s'applique décidément pas à l'État de Californie. Une véritable ruée vers l'or, sensationnel gold rush qui n'est pas près de se terminer si l'on en croit les déclarations pour le moins fracassantes faites cette nuit à la presse internationale par un certain Carl Lewis. Écoutez plus tôt. Autrement dit, j'ai un talent fou. J'obtiendrai l'or pour mon pays, 4 médailles d'or, pour la gloire et pour Dieu. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, je pourrais échouer. Il est impossible que je ne réussisse pas.
Je dis toujours, le président Rogge, il estime que le sport et la politique n'ont rien à voir, ils ne doivent rien faire ensemble.
Benoît Immermann.
Mais il se contredit de manière mais gigantesque. En 1984, à Los Angeles, on a autorisé pour la première fois un athlète, il s'appelait Carl Lewis, c'était un des plus grands athlètes de l'athlétisme et des Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'on a vu un athlète prendre un drapeau national et faire un tour d'honneur avec son drapeau national. Depuis, il n'y a pas une seule victoire aux Jeux Olympiques qui ne soit pas soulignée de deux traits par ce même acte qui a lieu immédiatement après la victoire. Nous avons là un acte purement nationaliste. Le CIO a toléré que les drapeaux descendent sur le stade. Quand le CIO dit « c'est formidable en 92 ce qui s'est passé puisque nous avons une Sud-Africaine et une Éthiopienne qui ont terminé leur course première et deuxième qui, bras dessus, ont fait un tour d'honneur pour montrer qu'entre l'ex-pays ségrégationniste et le pays africain en question, il y avait une vraie entente. » C'est un acte politique. On peut s'en réjouir de cet acte. Il est beau, il est magnifique, mais c'est un acte politique. Donc, contester le point tendu de Carlos et Smith en 68, on peut pas d'un côté trouver qu'il y a des gestes politiques qui sont pas recevables et d'autres qui sont recevables. Donc, le CIO est en complète contradiction de ce point de vue-là. Je pense qu'il a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine, beaucoup d'efforts à faire dans son discours. Je comprends qu'il soit paniqué.
Il est 18h et vous écoutez France Inter.
Le 18-20, c'est d'abord la première édition du journal. Les titres ce soir, Éric Delvaux.
Des banderoles au nom des droits de l'homme déployées ce matin pour le départ de la flamme olympique en Grèce. Action de Robert Ménard avec Reporters sans frontières. Première réaction officielle aussi de Nicolas Sarkozy. Il appelle la Chine à la retenue au Tibet.
France Inter. Je pense qu'il faut vraiment préserver
ce moment de sport,
Fabien Canu,
sans signe distinctif. Qu'il le fasse en dehors du stade, bien évidemment, liberté individuelle, qui s'exprime. Mais le charme des Jeux, il est là. Il est d'arriver à réunir, après des milliers d'années, toujours à un moment donné, des individus qui ont envie de se rencontrer et de se découvrir.
Est-ce qu'on demande aux sportifs qui participent aux Jeux de signer la charte olympique, par exemple ?
C'est une obligation. Si on ne signe pas la charte, on ne participe pas aux Jeux olympiques, tout simplement.
Nous, en fait, sportifs, ce qu'on a voulu montrer, c'est parce qu'on nous pointait du doigt en nous disant que on disait rien, on allait aller faire les Jeux et puis fermer les yeux sur ce qui se passait en Chine. Et enfin, nous, on a voulu mettre un holà là-dessus, quoi. On a voulu dire attention. Déjà, les Jeux, on n'était pas tous pour que ça aille en Chine. Et puis également, on sait très bien ce qui se passe là-haut, mais on va essayer de faire passer un message en Chine, mais c'était pas aux sportifs à prendre en otage, quoi. Il y avait aussi, c'était plus aux politiques et peut-être aux industriels de faire changer les choses qu'aux sportifs, parce que nous on peut pas faire grand chose par rapport à la situation en Chine, quoi. Je pense que c'est plus, c'est à d'autres niveaux, quoi. C'est à d'autres niveaux.
Merci à Patrick Lastre, Benoît Emmermann, Raymond Pointu, Michel Jazy, Laura Flessel, Monique Berliou, Jean Pouxobut, Fabien Canu et Johan Diniz. Et merci comme d'habitude à l'équipe du Cœur des Jeux, Anne Delaveau et Sophie Gilry de l'INA, Sophie Cheblin et Émilie Serfati de la documentation écrite de Radio France. C'était Le Cœur des Jeux, mixage Jean-Michel Després, une série d'Aurélie Luneau et Gilles Davidas en partenariat avec la revue L'Histoire.
Les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 seront-ils muets ? On peut se poser la question, car devant les exigences financières exorbitantes des Américains, les radios françaises, toutes les radios, menacent de ne pas les retransmettre.
C'était « Quand la flamme vacille », la troisième émission de la série Le Cœur des Jeux. Première diffusion le 10 août 2008 sur France Culture. À suivre.